sous le nom de Stateka. Ah, c'est-tu bon, ça? Et pour le reste de mon été, ben ça a été du rap québécois, puis du rap québécois, puis du rap québécois. Puis c'est de la faute à un petit gars de Limoilou qui s'est transformé en M&M l'instant d'un show, probablement le show de sa vie. Ça doit faire drôle 4 jours après de jouer à Dolbeau, là. Mais Soldia sur les plaines, ça a été une soirée exceptionnel.
Moi, il m'a vraiment impressionné.
Un show de calibre international, puis j'ai été impressionné par tous les artistes que j'ai vus là, parce que tout le monde était là ou à peu près. T'avais Corias puis Fouki qui faisaient la première partie, puis même eux autres avaient des invités spéciaux.
Oui, il y a Alicia Moffett qui est venue faire un tour, entre autres, pour sa tune avec Fouki.
Jay Scott,
ouais.
Qui est venu, puis il est revenu, puis après ça, ben Soldia avait des vieux de la vieille avec lui aussi. Ça a pas arrêté. Ça a été vraiment une soirée extraordinaire, puis ça a fait en sorte que le lendemain, on était 3 Gravel à fouiller dans du Soldia, dans du Corias.
C'est le fun, ça. Puis je pense que vous n'avez pas été les seuls à avoir toutes les réactions positives par rapport à ce concert-là.
J'ai été surpris de voir le nombre de jeunes qui étaient là, tu sais, puis qui connaissaient les tunes par cœur, puis qui chantaient Grand Frère. Puis
crowd était vraiment diversifiée.
Oui. J'ai beaucoup de respect pour des mouvements musicaux qui réussissent comme ça, à aller chercher leur public sans passer par les moyens conventionnels. Parce que Soldia, c'est pas la radio qui a fait son nom. Là. Oui, il y a des radios qui ont joué des tonnes de Soldia. On a joué Grand Frère, entre autres. Mais le succès, c'est pas bâti là.
C'est pas les réseaux sociaux non plus dans les dernières années.
C'est
ça qui est spécial.
Puis, c'est drôle, hein, parce que je sais qu'il y a des chiffres qui sont sortis cet été pour dire qu'on était très infidèles dans nos choix musicaux. Puis on avait des chiffres sur Spotify, entre autres, qui nous disaient qu'on n'écoutait pas beaucoup de musique québécoise. Mm-hmm. Puis je regardais ces chiffres-là, puis je me disais, on dirait le portrait du Québec d'il y a 10 ans.
Mm-hmm. Mais on disait que l'année passée, il y avait à peine 7% des écoutes sur les plateformes qui étaient attribuables à des titres québécois.
Je crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je serais curieux, entre autres, qu'on sorte les chiffres sur les vinyles québécois qui sont vendus depuis quelques années. Parce que moi, à chaque fois que je vois un artiste québécois qui sort soit du vieux stock, genre Jean Leloup qui sort le Dôme en vinyle...
Ça part en 3 secondes et quart.
C'est la folie furieuse. Puis les gens qui lancent leurs nouveaux albums en édition vinyle, ça part dans le temps de le dire
aussi.
Mais
t'as raison que la façon de consommer a changé aussi dans les dernières années, ironiquement.
L'artiste que t'aimes le plus, tu l'écoutes pas en streaming.
Absolument. Tu collectionnes ce qu'il donne, puis c'est sûr que ça joue ses chiffres.
Si j'avais été en onde cet été, ce que j'aurais dit, c'est ça. Les Québécois aiment leur musique, puis ils consomment mieux. Puis la plupart des gens écoutent de la musique sur Spotify. Mais quand ils vivent leur musique, là, c'est là que tu vas aller acheter quelque chose d'autre. Puis je pense qu'on est des consommateurs. Je dis pas que c'est 50% des Québécois qui font ça, mais les tripeux de musique, c'est ça qu'ils font. Puis ils en achètent du vinyle québécois. Et je pense que c'est un petit pendant de l'étude qui manque. Puis je pense que les sondages, de façon générale, nous montrent déjà un portrait qui est un peu dépassé. Je regardais le show de la Saint-Jean. Ici, c'est plein. Je veux dire, Lou...
Anne Cassidy.
C'est une star.
Vraiment.
Puis t'as plein de flow, puis t'as plein de jeunes qui sont là, qui connaissent les tunes, qui l'acclament comme si c'était Marimé qui venait de sortir sa première tune.
Moi, je me suis senti complètement dépassé.
Ah, moi aussi.
Honnêtement. J'étais là, puis j'ai rien compris.
Mais je trouvais ça beau.
Oui.
Tu sais, la nouvelle génération est en train de s'installer, puis je pense que le fun est revenu au Québec. Là, on parlait d'angine de poitrine au Japon tantôt. Sarah Dufour est allée en Chine.
C'est chez nous, ça?
Absolument. Il n'y a rien de gênant là-dedans, au contraire, mais de voir que... Il me semble que ça faisait longtemps qu'un show de la Saint-Jean-Baptiste donnait pas l'impression que c'était juste une convention du PQ plein air.
Ouais.
Tu sais, que tu avais du monde qui était là pour entendre les artistes qui étaient présents, puis entendre les tunes qui ont joué. Moi non plus, j'en connaissais pas beaucoup en passant. Hey,
honnêtement, je me suis sentie gênée. Là. Mais moi, c'est ce que j'aime, en me sentie vieille.
Quand Claude Dubois est arrivé, j'ai fait « Ah, lui, je le connais! »
J'étais contente! Non, mais le pire, c'est que c'est ce que j'aime, par exemple, des spectacles, c'est qu'après ça, moi, tu vois, ça m'amène un intérêt à aller écouter, puis avoir une curiosité supplémentaire. Puis pour revenir rapidement à Soulja, moi, ça fait ça, je consommais pas énormément de Soulja. Plus de Corias, de Jay Scott. Soulja, c'était moins dans... Mon chum, capote, mon chum est un fan fini de Soulja. Puis tu vois, après l'entrevue qu'on a fait en ondes, puis après l'avoir vu, c'est plein.
T'as été très bonne en passant.
Oh mon Dieu, c'est très gentil.
Oui, c'est une entrevue que j'ai écoutée parce que je voulais pas la manquer, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Là.
Je l'ai adoré, puis c'est quelqu'un, honnêtement, je dois lui donner le trophée dans mesure où c'est quelqu'un qui est tellement facile à jaser. Là. C'est quelqu'un qui te met à l'aise, on dirait. T'sais, t'as l'impression de jaser avec un chum de gars, puis c'est là que je voulais aller un peu. Nos vedettes ici, nos artistes québécois, ce sont des personnalités aussi. Puis je pense que ça aide tellement à ce qu'il n'y ait pas besoin nécessairement de la radio ou des réseaux sociaux. Ouais. C'est plus que des artistes musicaux, tu sais. Puis écoute, on pense ce qu'on veut de Roxane Bruno dans le genre et le style musical. C'est une personnalité aussi. Puis quand elle est débarquée à deux reprises, c'est pleine cette année. Elle a fait son effet. Là. Moi, j'ai été surpris de voir comment les gens se mettaient à filmer puis à capoter, là.
C'est-tu Lou Ariane ou Lou Adrienne?
Adrienne.
Okay. Je l'ai appelé Louane tantôt. Okay. Moi, t'as raison.
Lou Adrienne Cassidy, Pierre Lapointe, Soulja, Corias, Fouki, Patrick Watson, c'est tout du monde qui ont brillé au festival d'été. Ça veut pas dire qu'on tripe tout sur leur musique, mais ça va tellement en porte-à-faux avec l'affirmation qui s'est promenée cet été à cause des chiffres de Spotify. C'est pas vrai qu'on la consomme pas, la musique québécoise. Mmh. On a rempli et pleine pour écouter de la musique québécoise cet été. Il y a des festivals qui ont fait « sold out » à cause de la musique québécoise cet été. Moi, quand j'étais jeune, là, un artiste québécois sortait un nouvel album puis faisait ce qu'on appelait la tournée des festivals. Puis tout le monde y allait parce que on recevait pas de groupe international. On y allait par défaut.
Oui.
On y allait par dépit. La musique québécoise est rendue ailleurs. Puis qu'on soit rendu trop vieux pour comprendre les phénomènes, ben on fait partie du problème. Mais moi, je suis convaincu que à la lumière de ce qui se passe depuis une couple d'années au Québec. Je suis pas inquiète pour les artistes, deux maudites minutes, moi.
J'espère, pour vrai, je le souhaite. Moi, c'est un artiste québécois qui a volé mes larmes cette année, au fait, là.
Jonathan Roy.
Non, c'est Soulja avec « Ceci n'est pas une chanson triste ».
Ah, ben là!
Je m'en suis pas remis encore, pour vrai.
Il est 15h06, vous autres, vos découvertes cet été, ça a été quoi, le 418-971-1021, 418-971-1021? C'est notre première en formation complète, Gravel dans le retour. On est super contents de revenir vous jaser un peu. Évidemment, on va parler d'actualité dans les prochaines heures, l'actualité qui va se réinstaller tranquillement. Pour l'instant, c'est des averses et des orages. C'est ce qu'on prévoit également pour le début de la nuit. Après ça, ça se dégage. Demain, soleil 25. Mercredi, soleil 28. Jeudi, soleil 28. Vous êtes en vacances cette semaine. C'est pas complètement à l'eau.
Pour joindre l'équipe de Gravel.
Reprise, le futur se planifie plus facilement quand on y pense dès maintenant. SFL, gestion de patrimoine. Découvrez-nous au sfl.ca.
La meilleure équipe parlée à Québec est à Boulevard 102.
Salut Québec! Salut tout la gang!
Salut, c'est Marceau,
Jeff Fortin
et Max Larouche,
Catherine Bachand, Antonin Niacarini
et Mathias Surcot.
Salut, c'est Denis Gravel,
Véronique Bergeron
et Audrey Pinchot.
Nous sommes
Boulevard 102.1. On vous accompagne tout l'été avec une programmation parlée en semaine et la meilleure musique de la business la fin de semaine.
Hey everybody, this is Billy Joe from Green Day.
Hello, I am Kurt.
And we are Nirvana.
Hey, Quebec City.
This is Dom Howard from Muse.
I'm in Linkin Park and I like to rock.
Good evening, Ozzy.
Hello there.
L'incontournable pour l'été. Restez informés et rockés. Nous sommes Boulevard 102.1. Gravel, dans le retour.
What's going down?
Un show connu de tous.
Si je vous dis Denis Gravel, vous savez c'est qui?
Je sais pas c'est qui, non.
Véronique Bergeron?
Non.
Audrey Pinchot?
Non.
Ben voyons, vous êtes certain?
Non.
C'est écouté à l'international, ça.
Québec, pas pantoute.
Ben voyons, vous êtes certain?
Come on!
Ah là, je vous reconnais!
Gravel dans le retour, ça gagne à être connu.
Le ciel se vide pour une deuxième fois en 24 heures dans la grande région de Québec. C'est pour laisser place au soleil et au retour des températures plus qu'estivales dès demain. du soleil 25, mercredi soleil 28, jeudi même chose, soleil 28 degrés. On prévoit le retour des averses pour vendredi. Par contre, samedi et dimanche, on serait un peu plus dans le soleil que d'autres choses, avec des maximums entre 27 et 29 degrés, c'est-à-dire 28. Sur les routes, Audrey, il y a des problèmes. Non, mais tu sais... Pas pire.
Si vous êtes en ce moment sur la 138 Est, dans le coin de Sainte-Anne-de-Beaupré, à la hauteur de la rue Gagnon, c'est la voie de gauche qui est encore bloquée. Un accident qui est arrivé un peu plus tôt. On parlait d'un face-à-face selon un auditeur. Là. Policiers qui sont toujours sur place également. C'est un peu plus difficile pour ce qui est de l'accident dans la réserve faunique des Laurentides, le secteur Lac-Jacques-Cartier. C'est toujours d'actualité. Donc, direction nord à la hauteur du kilomètre 104, c'est la voie de droite qui est bloquée présentement. On n'a pas de policiers arrivés ou de remorquage en cours pour l'instant. C'est autre chose, 88-971-102, texto, vous vous gênez pas.
Pendant qu'on entend justement la musique d'Angine de poitrine, tu sais, mettons que vous avez une information entre les mains que vous n'avez pas le droit de dire. Vous savez, il y a des jeux qui fonctionnent comme ça, là. Mm-hmm. Des jeux où il faut deviner sans dire le nom du band. Mettons que j'essaye de vous parler d'angine de poitrine, mais que j'ai pas le droit de vous dire angine de poitrine. Je vais vous dire...
Guess who, finalement?
Déguisement. Ouais. Déguisement.
Picoté.
Picoté.
Noir et blanc.
Duo.
Saguenay.
Instrumental. Saguenay. Tu sais, il y a comme plein de choses que... Sébastien. Il y a comme plein de choses que tu peux dire, puis à un moment donné, ben, ça devient évident pour tout le monde que tu parles d'angine de poitrine, même si tu les as pas nommées. Des fois, dans l'actualité... Pour des raisons légales, t'as pas le droit de nommer des personnes impliquées.
Des ordonnances de non-publication, souvent ça... En fait, l'essentiel du temps, ça va être pour protéger des mineurs.
Ouais.
Où des parents peuvent être impliqués quand il y a des histoires de violence, d'agression sexuelle.
Là, on n'est pas là.
Non.
On est dans une histoire de divorce de millionnaire.
Où on veut protéger des enfants quand même. Là.
Et là, Audrey, je vais tout de suite t'indiquer, on joue aux devinettes, mais on n'a pas le droit d'essayer de donner des réponses en ondes.
C'est bien le dire.
Oui, oui, parce que...
Je parle à toi.
Oui, je te parle à toi directement.
Moi, je réponds aux questions. Hein,
que... C'est parce qu'à un moment donné, tu vas dire, ah, ben c'est une telle puis un tel,
ouais, non,
mais tu le diras
pas. Illégal,
ouais, c'est
illégal. On le pense tous dans notre tête, mais on le nomme pas.
Ouais, parce que dans la presse, aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Mona et Cédric. Mona et Cédric, c'est des gens connus.
En fait, des gens riches.
Des gens riches et célèbres du Québec. Et en plus, on n'a pas d'étonne que les deux sont connus. Fait que...
Disons que si c'était un jeu d'évasion, en cinq minutes, on serait tous sortis.
Tu sais, la première constatation, c'est à quel endroit on parle de cette histoire-là et à quel endroit on n'en parle pas. Déjà, il y a une partie du chemin qui se fait tout seul.
Attention.
Dans la presse, je le dirai pas, je le dirai pas, mais l'histoire est quand même fascinante.
Fais
parce
ta peinture
que...
en numéro puis dessine entre les lignes, s'il te plaît.
Tu sais, tout le monde a vécu, ou presque tout le monde a vécu, à un moment ou à un autre dans sa vie, une séparation difficile. Pourquoi je vous parle de cette histoire-là aujourd'hui? Parce qu'on est chanceux, dans des circonstances difficiles, comme une séparation, de ne pas être millionnaire et célèbre. Je vais vous le dire.
Parce que ça se retrouve partout.
Ben, ça se retrouve partout. Puis en même temps, c'est parce que on dirait que ça perd la commune mesure des choses.
Ouais.
Puis c'est pas loin du délire, là, ce qui est arrivé. Il y a une décision qui a été rendue dans ce dossier-là. C'est un divorce de gens très connus. On en parle dans la presse de ce matin, puis j'ai pas vu d'autres endroits où on a jasé de cette histoire-là. Fait que c'est des noms d'emprunt, là, Mona et Cédric. Une guerre sans merci, une guérilla judiciaire. C'est comme ça que le juge a qualifié l'histoire de séparation entre Mona et Cédric. On dénonce la conduite répréhensible de monsieur. Par contre, son ex-femme qui demandait 220 millions de dollars n'a eu qu'une petite partie de ce qu'elle demandait. C'est un procès qui se déroule principalement en 2025. Nous avons surnommé les parties Cédric et Mona pour faciliter la compréhension de l'histoire, nous dit la presse, puisque leur identité est protégée par la loi. C'est aussi pourquoi nous devons omettre plusieurs éléments du dossier. Mais les gens qui ont une mémoire vont se souvenir qu'il y a des éléments que la presse nous rapporte dans cette histoire-là qui, à l'époque, ont fait la manchette. Audrey, on joue pas aux devinettes. OK? Vous autres, vous pouvez texter des noms, là. 418-971-1021.
Je trouve ça tellement épais parce que si je suis une ou, dans ce cas-là, deux personnalités publiques, je m'arrange, me semble, pour essayer de régler mes affaires en dessous du tapis, puis
ouais,
pour pas que ça se ramasse.
Une séparation sour, peu importe que tu sois endetté jusqu'aux oreilles ou que ton compte en banque ait plein de zéros, la commune mesure n'existe plus.
Il y a un bout où, si t'es pas bien conseillé et t'es pas bien encadré, puis ce moment-là, des fois, il dure 5 minutes.
Ouais.
Mais il y en a que ça dure des années. Le bout où tu veux avoir raison parce que t'as des griefs contre la personne avec qui tu t'es séparé. Puis là, ben, c'est des centaines de millions de dollars qui sont en jeu. Puis c'est allé loin, là.
Absolument. Puis ce que je trouve triste, c'est que, tu sais, il y a des gens qui étudient dans le domaine du droit pour représenter des gens et qui vont souvent se servir de la colère de quelqu'un pour des raisons uniquement de réputation puis des raisons pécuniaires. Puis eux autres, ils vont comme nourrir la bête pour que ça continue à aller plus loin, puis on se retrouve avec des histoires comme ça dans les médias.
Bon, les gens qui jouent aux devinettes jusqu'à maintenant, c'est 100% de bonnes réponses. Puis j'ai même pas commencé à donner les détails. Audrey, tu sais c'est qui?
Oui.
OK, c'est bon. Mais dis-les pas, là.
Non. Mais là, la gang, ça prend pas la tête à Papineau, là.
Faire de la radio avec toi, des fois, c'est faire du bungee pas de corps.
Ouais. Mais j'assume, c'est le fun, c'est excitant.
Ouais, mais...
Moi, ça me donne chaud.
C'est excitant, mais à mi-chemin, tu peux constater que c'était pas une bonne idée.
Ouais, ça arrive, écoute, okay. C'est le risque.
Donc, Cédric et Mona, qui font vie commune pendant plusieurs années, à partir des années 2000, leur quotidien était haletant. Mona menait de front une brillante carrière, alors que Cédric faisait atteindre de nouveaux sommets à ses entreprises. Des témoins l'ont décrit comme un homme bouillant, impulsif et bagarreur. Si Mona était relativement fortuné, Cédric, lui, était immensément riche. Son patrimoine était 10 fois plus élevé que celui de son épouse. Leur train de vie était fastueux. Un manoir de 7000 pieds carrés, un immense chalet sur le bord d'un lac, des voyages en jet et dans les hôtels de luxe, une armée d'employés à leur service, cuisinières, gouvernantes, femmes de ménage et chauffeurs. Ils ont tous trouvé ça. Je cherche juste quelqu'un pour donner un livre à mes gars en fin de journée, puis je trouve pas. Faut croire qu'il y a du monde qui ont plus de contacts que d'autres.
Plus de moyens.
C'est peut-être, ça. Oui. Mais à leur rupture, dans les années 2010, les hostilités sont lancées. Cédric met même Mona en filature. C'est le début d'une décennie de litiges au cours de laquelle Cédric adopte une conduite répréhensible et un comportement blâmable. Ça, c'est le juge qui a écrit ça dans son rapport. Par exemple, énumère le juge, Cédric dépose des demandes par malice, refuse de collaborer, s'en prend au procureur de Mona, critique et insulte son ex-femme et menace de poursuivre ceux qui aident financièrement celle-ci. Hey, ça va loin, là!
Non, c'est absolument ridicule. Il y a beaucoup de... Il semble y avoir beaucoup de hargne et de mauvaise volonté de la manière dont le juge en parle.
Tabarnouche, tout le monde gagne. Au jeu des devinettes aujourd'hui, tout le monde gagne.
On a une bonne gang intelligente.
Rendu là, c'est un peu niaiseux, là. On va se le dire entre nous autres.
Ouais,
c'est parce que tout le monde le sait.
Mais oui, mais là,
il y a des bouts de ce que je viens de vous lire que ça a fait les nouvelles dans le temps.
Je comprends.
Pas toutes, par exemple. Là. Moi, il y a des affaires que je ne savais pas.
Puis, tu sais, malheureusement, la justice prend pour acquis que la plupart du monde ne fera pas 1 + 1, ça fait 2, alors que dans des histoires tragique dans des histoires, entre autres, de violence familiale, parce que les règles ne sont pas claires quand on met des... Justement, on demande de ne pas divulguer des identités, mm-hmm. Ben on est capable quand même de faire des liens.
Pour les gens qui ont deviné c'était qui Cédric et Mona, ben sachez que selon le juge, seul Cédric est l'artisan de la guérilla judiciaire. Ce qui est quand même particulier, là, tu sais, on lui reproche son comportement. Il y a quand même 10 fois plus d'avoir que sa blonde ou son ex blonde, mais c'est lui, selon le juge, qui a fait en sorte que tout ça a viré en marde. On va se dire, oui, effectivement, en marde vinaigrée. après leur séparation, Mona vit des années de vache maigre. Et on a des chiffres, puis c'est quand même saisissant, là. Notamment en raison de la rupture des relations d'affaires entre son entreprise et celle de Cédric. Ouais, c'est vrai que dans les choix de réponse, il n'y a plus grand-chose. Hein. Ses revenus passent de 665 000 $ à environ 113 000 $ pendant plusieurs années. Leur divorce mène Mona au bord de la faillite. Elle s'y trouve d'ailleurs toujours. Quant à Cédric, son patrimoine a continué de bondir. Mona demandait 220 millions de dollars à son ex-mari pour son apport exceptionnel à l'augmentation de la valeur du patrimoine de Cédric grâce à ses conseils stratégiques. Selon elle, il formait une co-entreprise familiale, même si elle n'avait pas de part dans l'entreprise et qu'elle n'y jouait aucun rôle officiel. Ça veut dire que la défense de Mona était basée sur le fait qu'elle disait qu'une partie du succès de l'entreprise de Cédric
lui était attribuable.
C'était grâce à elle, ouais. Alors qu'elle n'a pas de part dans l'entreprise. Mm-hmm. Je sais bien pas de qui on parle. Non, mais on jase, là, on jase. le juge Jolin a rejeté la thèse de Mona, même si de nombreux éléments peuvent militer en faveur d'une co-entreprise familiale. La preuve ne démontre pas que Mona a suffisamment contribué au succès de l'entreprise de Cédric. Le juge refuse de lui accorder les 220 millions. Cependant, le juge reconnaît que Mona s'est appauvrie pendant la relation, donc il lui donne 650 000 $ dont 300 000 pour ses services rendus à l'entreprise de Cédric et 350 000 $ pour son rôle prépondérant auprès des enfants et des résidences. C'est d'ailleurs Mona qui a assumé seule la charge mentale associée aux enfants et aux responsabilités domestiques alors que Cédric était loin du foyer. Cela dit, le tribunal retient que le temps consacré par Madame au bénéfice de la famille ne l'a pas contrainte à suspendre sa carrière. Si cette réalité ne fait pas obstacle à une compensation, il faut en tenir compte dans la détermination du montant. Alors que le procès est terminé, Mona a obtenu la réouverture de la preuve l'an dernier, après avoir découvert...
Ça a pas de bon sens.
Que Cédric avait acheté une luxueuse résidence de 12 millions de dollars tout juste avant le procès en utilisant un prête-nom. Cédric n'a rien dit à ce sujet, ni sur l'achat d'une villa de 26 millions de dollars à Saint-Tropez, rien de moins.
Mon Dieu!
Lorsqu'il a été interrogé sur ses propriétés. Après coup, Cédric a tenté de justifier son silence en affirmant que son acquisition était un investissement, alors que la question ne portait pas là-dessus. Une explication pas crédible, selon le juge. Ce qu'on comprend, c'est que Cédric s'est dit « elle aura pas toute », puis il a commencé à faire des achats avec un autre nom.
Oui, mais là, tu penses-tu vraiment que ça se découvrira pas maintenant? Hein?
Mais... vous avez tous vécu une séparation difficile?
Mais tout le monde a vécu ça une fois dans sa vie. Là. Une poche, du moins.
Tu sais, les noms sont pas là-dessus, mais tout le monde sait de qui on parle. On s'entend-tu qu'il y en a un qui paraît pas bien, mais pas pantoute? Là?
Non, puis que si c'était pas de ça, c'est pas une histoire qui serait dans les médias. Parce que ça, c'est pas le fun non plus. Là.
Ben non!
Parce que ça amène des jugements de part et d'autre. Il y a des gens qui prennent parti. En tout cas, c'est...
Je sais pas si vous faites partie des gens séparés qui bénéficient d'une pension alimentaire. Je sais pas c'est combien votre pension alimentaire par mois. Vous voulez-vous savoir, le juge a fixé à combien par mois la pension alimentaire de Mona?
Ça doit être élevé parce que c'est pour suivre le rythme de vie d'avant. Hein?
C'est ça. Ouais.
Par mois.
La pension pour les enfants.
Là, il y en a, je vous le dis, ça va faire mal parce qu'il y en a qui font pas ça.
Dans une année.
Dans une année. C'est 47 000 $ par mois.
C'est insultant, hein? Il y a des gens qui sont bien.
Non, ils sont pas bien. Leur histoire est dans le journal, Audrey.
Mais là, j'entends, là, mais là, quand t'as une pente...
Non.
47 000 $ par mois, Christy?
Non.
Pourquoi les enfants de 47 000 $?
C'est une excellente question. Sérieux? Mais il y a des affaires qui sont drôles. parce qu'on sait c'est qui.
Ben oui.
Tu sais, de savoir que Mona avait des goûts luxueux en vêtements, puis en chaussures, puis ainsi de suite.
Bon, probablement que si j'avais ces moyens-là, moi aussi, on serait capable de dire que j'avais des goûts luxueux, Denis. Probablement que toi avec.
Aïe, aïe, aïe.
Quelqu'un qui nous dit, moi, en frais de pension alimentaire, c'est 86 $ que mon ex me doit.
Bon, tu vois.
Mais tu sais, je pense aux enfants. Là, ah, c'est des enfants qui sont vieux, là, parce que la séparation date d'il y a quelques années,
aussi,
selon l'article.
Là.
Puis, tu sais, ils l'ont accès à la presse. Là. Mm-hmm. Ils sont déjà au courant de la chicane de leurs parents.
Ouais.
Là. Mais là, t'en rajoutes une couche publiquement parce que nous autres, on est là puis on en parle parce que là...
Mais c'est rare qu'il y ait autant de détails, même quand ça va en cours. Puis je pense à un couple hyper célèbre où les enfants ont renié leur père, Brad Pitt.
Oui. Mm-hmm.
Tu sais, on le sait pas, là, pourquoi. On s'en doute. Il y a plein de rumeurs, mm-hmm. mais le pourquoi du comment, on le sait pas. On sait juste qu'il y a des enfants qui ont changé leur nom de famille, puis c'est pas par coquetterie, puis c'est pas par souci d'anonymat.
C'était joli pit, puis là, c'est joli tout court.
Là, ils renient leur père. C'est
chaque
une façon.
C'est ultra public.
Oui, c'est une façon de renier leur père. Ouais. C'était quoi le problème de fond? On le sait pas. Mais dans un milieu microscopique comme celui du Québec, de penser qu'une ordonnance de non-publication fait en sorte que. On ne sait pas c'est qui Mona puis Cédric, avec le nombre de détails qu'il y a dans la presse aujourd'hui.
Moi, je trouve ça triste.
Bien, je trouve ça triste en baptême pour les enfants.
C'est pour ça que je le soulignais tantôt. Notre système de justice, à un moment donné, surtout avec l'omniprésence des médias sociaux, va devoir resserrer
Mais
les règles. Bien, c'est parce que tu es capable, à un moment donné... C'est notre collaboratrice Judith Demel, qui travaille au Soleil au judiciaire, nous expliquait, entre autres, que quand ça impliquait des mineurs du côté de la France, c'était à huis clos systématiquement.
Ouais.
Et que c'était le tribunal qui choisissait les informations qui sortaient, peu importe que ce soit des mineurs qui soient poursuivis ou encore qui soient impliqués, par exemple, dans des histoires comme celle-là. On ne protège pas les gens quand c'est nécessaire.
Mais
hein?
Sont-ils encore mineurs?
Il y en a qui sont encore mineurs.
OK. Parce que, tu sais, des fois, ça peut jouer dans la balance.
Moi, je fais de la radio. Puis, je suis un potineux de marde.
Ben oui, on est tout ça, Denis, voyons.
Tu sais, moi, je suis content d'avoir les détails.
Oui.
Tu sais, parce que je suis pas impliqué personnellement dans la patente.
Justement, on aime ça voir les crapauds, là. Le monde, ça ralentit sa route. Quand il y a un accident, c'est pas juste parce qu'il y a une voie de coupé que c'est lent, là.
La seule question que je me posais aujourd'hui, c'est en parlant de ça, est-ce que tout le monde va les identifier tout de go? Il n'y a que des bonnes réponses sur le texto présentement. Oui. C'est un parcours parfait. Oui. Bravo à tous les Nadia Comaneci de ce monde. 418-971-1021, vous l'avez toutes trouvé. C'est qui Mona puis Cédric? Mais...
J'ai quand même de la peine pour les enfants.
Ben, un juge qui pense, qui protège les enfants avec une ordonnance de non-publication dans un dossier comme celui-là, où tous ces détails-là sont de nature publique,
Tu penses que ça aurait été mieux d'être public déjà en partant puis qu'on patine pas?
En fait, si ma priorité, c'est les enfants puis que je suis le juge, il n'y a rien de ça qui est public aujourd'hui. Rien. Les détails, je mets une ordonnance de non-publication parce que je me dis, on n'est pas fou à temps plein, tout le monde va deviner c'est qui.
L'autre affaire, c'est de ne pas vous chicaner, c'est
ça. Ça, c'est l'autre affaire, mais la vie étant ce qu'elle est et l'humain étant ce qu'il est.
Ça me fait capoter.
C'est triste en tabarnouche.
Ce que je trouve mal fait, c'est que dans un univers où on a ces détails-là, par exemple, puis je comprends qu'on met une ordonnance pour protéger les enfants, mais j'ai l'impression qu'on n'aurait même pas tant parlé si on avait eu les noms tout de go.
Peut-être.
Parce que c'est un autre potin.
Non.
Ah, moi, j'ai ce sentiment-là, c'est un autre potin. Mais quand t'as pas les noms, tu joues au détective, tu fais des liens, t'en parles, j'ai l'impression que ça mousse plus.
Parce que moi, en lisant le détail ce matin, il y a des éléments que je me souvenais d'avoir lu dans le journal, dans le temps de la séparation, tu sais. Puis là, tu fais quelques recherches, tu googles un peu, tu es capable de retrouver des affaires. Si moi, je suis capable de le trouver, ben ça veut dire que des gens qui veulent faire du mal aux enfants de ce couple-là, ben sont capables de faire un plus un égale deux aussi. Puis effectivement, puis ta réflexion était bonne, faut en faire plus dans un petit milieu comme le nôtre, quand tu veux protéger des enfants. Je vous jouerai pas de violon sur une mère qui reçoit 47 000 $ de pension alimentaire par mois.
Mais encore là, la chicane semble avoir été pas mal à sens unique sur une certaine partie.
Oui.
Tu veux-tu plus que ton histoire soit dans les médias parce que tu as raté ta séparation?
Bon,
au-delà des enfants.
On va le dire. Denis... C'est qui, là? C'est Brett et Cricket Rockwell.
Oh,
la bonne réponse vient de rentrer. on le sait. Non. Elle est rendue avec Brad.
Vous étiez dans le champ tout ce temps-là.
Ouais, tout ce temps-là, vous n'étiez pas si bon. C'est Brett et Cricket. 15h32, vous êtes à Boulevard 102.1. Chicanez-vous pas, c'est Gravel dans le retour. Gravel. 15h37, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. C'est littéralement le retour du retour. Programmation qui va reprendre son beat naturel dans les prochains jours. Quand est-ce que notre chum Marceau revient au crachoir, mademoiselle?
Lundi prochain.
Oui.
Lundi prochain?
Yes.
Oh! Ça veut dire qu'il me reste une semaine pour m'installer dans le sous-sol?
Oui.
Parce que je fais le pit stop à distance à partir de cet automne.
Je sais que tu serais même pas obligé de le dire. Hein? Si t'es bien installé, ça paraîtrait même toi.
Ben, moi, j'aime ça faire de la magie.
Oui, mais peut-être... C'est sûr que les gens s'en douteraient parce qu'il sera à l'heure.
Oui, c'est ça. Ça, c'est
louche. Oh, oh, attention, là, ça, c'est pas garanti, là. Moi, je contrôle juste une partie de l'équation dans ce show-là. Là. mais non, c'est ça va être le retour du Pit Stop la semaine prochaine aux environs de 7h55. J'ai hâte de rejaser avec la gang de boys. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de mentionner le nom de Jeff quand je faisais le tour des gens qui ont travaillé cet été.
Oui, il revient de 3 semaines de vacances.
On a l'impression qu'il fait partie des meubles, des panneaux Acoustimas et ainsi de suite. Là, c'est peut-être un petit peu comme ça. Hey, je l'écoutais jaser de sa deuxième job ce midi. De plus en plus de gens hein, qui n'ont pas le choix. Jeff qui racontait ce midi que la transmission de son char, il a fait des mains jour 1 de ses vacances.
Ah, ça pète des plans aussi, là.
6 000 $ ouais. De réparation sur un char, tu commences tes vacances. Ben, notre chum Jeff a recommencé à arbitrer des games de deck hockey.
Oui, oui.
Parce que...
Moi, je suis rendu avec un side job aussi. On dirait qu'à un moment donné, si t'as des projets où il arrive des pépins, il faut que tu puisses te backer.
Hein? Être maire, c'est pas un side job. Hein?
Oh,
c'est
merde.
Pas... non.
Faut que je voulais commencer.
Ben, pas pour ça, Audrey.
Il t'arrête un an, c'est pas pour un side job. Là. Non, c'est pas...
Enfin, que t'as un bout de salaire qui se rendra pas. Là.
Mais on est combien à être à... une bad luck de la catastrophe financière.
Ah, mais la majorité. Je pense que les gens n'ont plus vraiment de coussins, en fait.
J'écoutais Jeff conter son histoire à midi, puis je me disais, on est combien exactement dans la même situation? Ta transmission de char lâche. On dirait que la chaîne débarque pour l'anneau complet.
Ouais. Tu vois, moi, la pandémie m'a botté le cul là-dessus sur le fameux coussin. Parce que, tu sais, il y a des gens qui ont perdu leur job du jour au lendemain.
Ouais.
Nous autres, il y a une portion de notre salaire qui a été coupée pour... justement, pouvoir garder nos emplois. Fait que ça, dans ce temps-là, ben tu sais, oui, tu as moins de dépenses, mais tu te rends compte, hey, si moi aussi j'avais fait partie de ceux qui, temporairement, avaient perdu leur emploi, c'est quoi mes engagements financiers desquels je ne peux pas me délester qui vont faire que je risque de m'endetter? Puis il a fallu que je me serre la vis un peu. Puis j'ai un compte CELI moyen terme que j'appelle, là, qui est cet argent-là au cas où il arrive une bad luck, au cas où peu importe ce qui va arriver pour faire que je sois capable de dormir le soir parce que ça m'a rendue excessivement anxieuse de penser à ça.
Mais pense à des gens qui ont 3 enfants.
Ben oui, absolument.
Que les 3 enfants font des activités, de la musique, du sport, puis ainsi de suite. Combien, présentement, à Québec, sont à une bad luck de la catastrophe?
On vit de paye en paye. Une majorité de gens... vivre de paye en paye. Puis, tu sais, d'un autre côté, on, contrairement, mettons, nos parents, nous, on a grandi, on a appris à vivre avec la vente à tempérament. T'as pas l'argent pour changer ton frigo? Bah, on va prendre des paiements par mois. T'as pas les moyens de te payer le char dont tu rêves? Bien, on va le mettre sur 7 ans au lieu de le mettre sur 4 ans.
Mmh.
Fait que, tu sais, on se retrouve avec une espèce d'engrenage qui fait que quand la bad luck arrive... les engagements sont tellement grands. Puis d'un autre côté, cet engrenage-là fait aussi qu'on n'est pas capable d'accumuler de l'argent
mais
non plus.
Fait
que,
mais non.
Oui, il y a quelque chose. La vie coûte cher. C'est dur d'économiser. Mais on s'est placé une pression d'avoir tout le temps du beau, du neuf, du si qui
ben
fait
oui,
que...
ça aide pas, ça.
Dans le temps, tu avais un ordinateur pour la famille. Il était dans la pièce principale. Maintenant, si t'as pas ta tablette, niaf, tu sais... C'est tous ces éléments-là qui font qu'à un moment donné, oui, ça coûte cher, mais on se met beaucoup de poids ces épaules.
Beaucoup par texto. Hein? Il y a
Du
monde qui font du Uber, DoorDash, Suicide en plus de leurs 40 heures de job.
Je donnais l'exemple. T'sais, tu parlais de gens qui, ont de la misère à arriver à la fin de l'année, mais en même temps, c'est rendu qu'on s'obligent à un paquet de dépenses. Tu sais, tu es au restaurant, puis tu te plains que l'épicerie coûte cher.
Voilà, c'est... ironie. Ouais.
Tu te viens de commander une poutine à 30$.
On est poche là-dessus aussi, hein? C'est ça, les priorités, on a comme la misère.
Ouais, ouais, ouais. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans, là-dedans aussi. Bref, on va revenir graduellement à l'antenne. Puis un gros merci à tous ceux qui ont été là pendant l'été, qui ont fait du remplacement, puis qui ont fait en sorte qu'on reste une radio parlée cet été, ce qui était un enjeu. Là, c'est quand même la première année qu'on a fait la transition, puis on l'a vu le printemps passé. Vous êtes au rendez-vous. Fait que ça a comme mis une pression aussi sur...
Je peux pas vous mettre de la musique à journée longue l'été. Là.
Non, parce que vous avez adopté le nouveau format. Fait que salutations puis des gros merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont occupé l'antenne. Pendant que nous autres, ben, on passait des belles vacances. Moi, à me séparer, puis Véro à changer le bassin de pipi de son chum à l'hôpital.
Vraiment des belles vacances.
Ouais, ça a bien été.
Hey, puis... Les préposés aux bénéficiaires, là, ouais. Vous n'êtes pas à bonne place sur l'échelle salariale.
Ah, sérieusement, ça, on n'en parle pas.
J'allais dire que c'est une job de marde, là, mais c'est même pas une image. Hein, c'est ça qui est ça.
Dans des équipes, c'est comme n'importe quoi. Là, t'en as qui chaînent, t'en as qui chaînent moins, mais ceux qui chaînent, chaînent beaucoup. Mm. Puis, tu sais, c'est plate, mais dans le système de santé, là, dans le bas de l'échelle, t'as souvent ces gens-là qui s'occupent du ménage puis qui s'occupent des tâches auprès du patient, mais qui sont souvent les tâches les plus importantes. La coloc de mon amoureux. Petite madame fière, belle, fine, 95 ans.
À l'hôpital?
Vit avec sa petite sœur de 90 ans dans leur maison. Il est arrivé un petit incident. Puis elle allait mettre ses vêtements pour pouvoir quitter. Puis là, elle était bien découragée de ça. La préposée est arrivée, ni une ni deux. Faites-vous-en pas, madame, je vais m'occuper de vous. Vous allez repartir d'ici, vous allez être propre, vous allez être fine.
Elle a redonné sa dignité.
Tabarnache que vous faites une job incroyable, ouais. Qui est pour connu. Puis tu sais, c'est souvent eux qui... Quand, mettons, tu ne veux pas appeler les infirmiers et infirmières parce que ton problème n'est pas assez gros, c'est ces gens-là qui vont être là, qui vont servir d'intermédiaire. Puis le terme dignité que tu as utilisé, Audrey, là, c'est tellement le bon terme. Tu as des gens qui sont tout seuls. Mon amoureux, il était chanceux. Il y avait moi, il y avait ses parents, il y avait sa fille qui allait faire leur tour. Puis on était là pour s'occuper du B.A.B.A.
Tu étais là pour préserver sa dignité. Là.
Ben oui, il l'a perdu avec moi, mais bon.
Mais, ça fait partie de la game.
C'est pas tout le monde qui a de la famille.
Oui. Ouais.
Puis souvent, ça va être ces préposés-là qui vont être le contact, qui vont être la discussion, qui vont être tout. Vous êtes extraordinaire.
Puis ça va être de plus en plus demandé, là, je veux dire. C'est un domaine où, tu sais, nous autres, on vieillit, là, en tant que population. Ouais, ouais, on le sait, là, ça va en prendre, puis ça va en prendre, ça va en prendre beaucoup.
C'est vraiment une vocation, là.
Ouais.
C'est vraiment une vocation d'être préposé.
Tu sais, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui font ces jobs-là. Puis ça, il y a une montée beaucoup du
camionneur,
racisme au Québec,
ça?
Là. Denis,
ah non, OK, excuse.
Il y a beaucoup de montée de racisme au Québec. On entend des commentaires, des affaires du genre. À un moment donné, c'est vous qui allez être dans votre marre dans un lit d'hôpital, puis vous allez leur dire merci.
Oui, vous allez être reconnaissant en tabarnouche qu'il soit là.
J'ai 43 ans, je dois travailler 7 jours sur 7, aucune journée de congé sur la construction. La semaine, je travaille dans une boutique pour vendre des habits. La fin de semaine, je ne peux même pas me payer une maison car je suis seul et j'ai 3 enfants.
Non, c'est ça.
Il y a des réalités qui sont...
Il
y a des réalités qui sont vraiment pas faciles. Et pendant ce temps-là, ben Cédric va verser une pension alimentaire de 47 000 $ par mois à Mona. C'est ça qui est ça. Il est 4h moins quart. Dans l'actualité, Véro, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se brasse? Peut-être jeter un œil à la circulation d'abord.
Bien là, la bonne nouvelle, c'est que les problèmes, là, les accidents dans le coin de Saint-Anne de Beaupré et compagnie, c'est terminé. Fait que ça, ça fait à peu près 10 minutes là, que là, tout est ramassé, tout est good. Fait que les voies sont rouvertes. Je vous rappelle que c'était à la hauteur sur la 138 de la rue Gagnon à Saint-Anne de Beaupré. Là. Possible que ce soit encore au ralenti, mais sachez que c'est débouché. Fait que ça va se calmer un peu. Si je regarde la carte, capitale direction est entre Henri IV et Laurentienne, c'est quand même assez bien installé. Direction ouest, ça va pas pire. Là, c'est hauteur Laurentienne qui a un léger ralentissement. Si vous êtes sur Henri IV Sud, de Wilfrid Hamel au pont, on sent quelques problèmes en ce moment. Direction nord, ça se passe surtout entre la sortie des ponts, je vous dirais, puis chemin Sainte-Foy. Duplessis Sud, entre chemin Sainte-Foy et les ponts, au ralenti également. Et la 20 direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Est, c'est toujours entre la 73 et Taniata. S'il y a autre chose, 971-102 à texto.
Véro.
Ce serait pas une journée d'actualité si Donald Trump donnait pas un point de presse et s'il ne parlait pas des négociations avec l'Iran. C'est ce qui s'est passé au courant de la dernière heure et demie alors qu'il répondait aux questions des journalistes. Il maintient qu'il y a actuellement des négociations avec l'Iran, même si un petit peu plus tôt aujourd'hui, Téhéran a dit non, 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 il n'y a pas de négo, ça avance pas. Il a encore parlé d'une une fois de plus, de la négociation de la dernière chance pour obtenir un bon accord. C'est pas des jokes.
Au moins, Poutine avec l'Ukraine fait pas semblant de négocier. Là.
Non, exactement.
Hey, on est parti au début de l'été, c'était ça à tous les jours. Ah, on négocie, ah, on a une entente. Ah, finalement, on va tirer de la roquette. Je peux pas croire que ça a duré toute l'été.
Là, oui, puis c'est franchement pas terminé. Là, il a maintenu que ces négociations-là se tenaient à la demande de Téhéran avec le soutien de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar. Et là, on parle encore une fois d'une possible réouverture dès demain du détroit d'Ormuz. On a eu une petite accalmie pour ce qui est du prix du pétrole, le prix de l'essence, mais ça a été terriblement bref. Et d'ailleurs, il en a rajouté une couche. Vendredi passé, il y a de grandes entreprises pétrolières, en l'occurrence ExxonMobil puis Chevron, qui ont annoncé que leurs bénéfices avaient explosé, boostés entre autres par la guerre du côté du Moyen-Orient, qui s'est mis à les accuser de faire trop d'argent.
Ah, mais là, mon Dieu!
Comment dire? S'ils font de l'argent, c'est parce qu'il y a une rareté. S'il y a une rareté, c'est parce qu'ils décident de partir en guerre avec l'Iran.
Moi, j'ai comme passé l'étape d'essayer de comprendre ou d'argumenter avec un président en fin de vie qui semble avoir des problèmes intestinaux de plus en plus désagréables pour son entourage direct. Les vidéos sont nombreuses.
Tu parles de problèmes de gaz?
Pis,
de pétrole?
Peut-être plus. Ah, oui. Le pétrole coule à flot entre ces deux grosses foufounes jaunes-là.
Il exhorte
Et pas dans les moments les plus opportuns. Là.
Il exhorte les géants pétroliers à baisser leur prix à la pompe. Sinon, quoi, il va leur faire des tarifs, quelque chose?
Ben, j'imagine, là. Nous autres, on va avoir des punitions, là, parce que la boucane de nos feux se ramasse aux États-Unis.
Oui.
Quel gros tarif.
Plus tôt ce matin, en fait, aux environs de 6h30, il y a WestJet, transporteur aérien, qui a annoncé qu'on en était venu à une entente de principe avec le syndicat canadien de la fonction publique qui est en grève depuis hier. Il y a des gens qui n'ont pas pu être rapatriés de leur voyage ou encore qui n'ont pas pu partir en vacances. Sérieux, avec toutes les perturbations qu'il y a eu avec le voyage aérien, là, si vous partez en voyage et que vous ne prenez pas d'assurance...
Vous avez rien compris.
Je vous trouve...
Téméraire.
Oui, c'est exactement. C'était pas le terme que j'avais en tête, mais il illustre quand même poliment ma pensée. Donc, ça met fin à l'arrêt de travail qui avait débuté au courant de la journée d'hier. C'est quand même plusieurs centaines de passagers qui avaient été touchés par ces perturbations-là. Il y a eu le bilan des accidents mortels pendant les vacances de la construction sur deux semaines. C'est un bilan de 18 décès. Donc, 15 collisions auraient pu être évitées. C'est beaucoup moins que l'année passée, mais on est dans les chiffres standards des dernières années. L'année passée, ça n'avait pas bon sens, on était à 35. Ça reste quand même 18 décès de trop. Encore une fois, on dit que c'est des facteurs humains qui ont causé ces accidents-là. Vitesse excessive ou inadaptée, distraction, conduite avec les capacités affaiblies. C'est la semaine passée, on est parti en road trip sur le secteur du Bas-Saint-Laurent, si on veut. Puis en revenant sur la 20, il y avait une remorque qui ramassait un char bleu tout décollissé. On ne savait aucunement ce qui s'était passé. Finalement, plus tard dans la soirée, dans les nouvelles, un dépassement limite illégal à haute vitesse qui a fait qu'il y avait trois véhicules qui avaient été impliqués là-dedans. Des affaires comme ça, il y en a eu quand même pas mal pendant les vacances.
Tu m'as envoyé ce vidéo-là ce matin, puis là, je vois que ça commence à faire le tour de la province. En fait, si vous n'avez pas vu ce vidéo-là aujourd'hui, il y a des bonnes chances que vous vous enfargiez dedans ce soir. Avez-vous vu le vidéo du motocycliste qui subit un face-à-face, qui revole de sa moto pleine vitesse? Puis le gars a été chanceux dans sa malchance. Premièrement, il s'est fait rentrer dedans par quelqu'un qui était en mode dépassement sur une route double.
Oui, puis lui avait décidé de tourner, puis le motocycliste a tout fait pour l'éviter, mais c'était impossible, puis c'est pas le motocycliste qui est en cause. Là.
C'est dans le coin de Gatineau que c'est arrivé le 17 juillet dernier. Marc Bélanger, qui faisait une balade en moto, il roulait sur une route à double sens. La limite est à 80 km/h. Il y a un VUS qui arrive en sens contraire, qui s'est mis à tourner dans sa voie pour se diriger vers un garage. Résultat, l'homme de 59 ans a revolé, puis a revolé solide, et l'image nous montre son point de vue à lui. Là.
Oui.
C'est une webcam là, qui est une caméra de une webcam.
Une GoPro Denis.
Ça va, mon nom,
webcam.
Une webcam.
C'est une genre de GoPro.
Une enregistreuse.
Que sur son,
un moulin à diapositives.
Puis lui, il a envoyé la vidéo à la Société de l'assurance automobile du Québec en disant « Je vous donne la permission de l'utiliser pour faire de la prévention, pour montrer c'est quoi la sécurité sur la route. » Et l'homme portait pas juste son casque puis son habit de motocycliste, il était bien équipé. Il avait une veste qui se gonfle au moment de l'impact, l'équivalent d'un coussin gonflable, mais portatif sur toi, puis dit « sans ça, j'aurais tellement été plus maganée ». Mais la vidéo, je pense que la collision s'est faite à quelque chose comme 60 km/h de son côté, là, sa fesse. Là.
Non, mais c'est parce que tu le vois partir quasiment comme Superman, puis tu te dis « OK, après ça, ils lui ont juste reconstruit un genou ».
Ah oui, c'est tout ce qu'il y a eu, c'est une déchirure à son, à son tendon, de son genou gauche.
Il a été très chanceux.
Mais honnêtement, il y a un point là-dedans, moi, qui me marque. Puis si vous voyez la vidéo passée, il est solidement bien équipé. Le problème,
comme tu devrais l'être en moto. Hein?
Absolument, mais moi, il y a un point de légalité là-dedans que je comprends pas, qu'on n'a pas encore abordé avec les accidents de moto. Dans ma tête, c'est un permis de moto. Tu devrais avoir l'obligation, comme un casque, d'avoir des pantalons de moto, d'avoir une veste de moto, des bottes, des gants de moto. Tu sais, c'est des équipements qui coûtent cher, mais ça fait partie du fait de pratiquer ce sport-là, puis ça sauve carrément des vies. Puis sa petite veste, honnêtement, ça, c'est magique, là. C'est pas la moitié du monde qui porte
puis,
ça, là.
Tu sais, la raison pour laquelle on l'a partagé aujourd'hui, c'est que dans le bilan des 15 décès, les motocyclistes sont surreprésentés. On parle de 6 décès. Mais Audrey, t'as raison, parce que l'équipement, c'est pas juste les décès, c'est tous les traitements que t'as après. Hey, quand, tu sais, juste te râper un genou quand tu fais du bicycle puis t'es jeune, là, te faire enlever le sable dedans, c'est pas le fun. Hein? Mmh. Imagine quand c'est la peau qui est brûlée parce qu'il y a eu un dérapage. T'es pas obligé d'avoir des fractures ou quoi que ce soit.
Beaucoup
là.
De motocyclistes qui sont égantés.
En plus.
Je sais pas si vous savez ce que c'est, être éganté. Mais c'est la peau dans le fond qui, bon, vous comprenez. Ça arrive énormément. Ouais. C'est dégueulasse. Mais là aussi, ils doivent aller jouer là. Puis on a tellement des motocyclistes qui se promènent littéralement en t-shirt, en shirt.
Les filles en petite short, en babouche et en camisole, là.
Sérieux.
Tabarouette.
C'est une panne en arrière, là, c'est épouvantable.
Ah, des fois, elles conduisent aussi. Ah.
Hey, parlant de moto, mon père, ce héros, mon père a sauvé la vie de ma mère cet été en moto.
Hein? Comment ça?
Ouais, ils font de la moto ensemble.
Depuis très longtemps.
Depuis très longtemps. Puis il a fait chaud, hein, cet été. Il a fait très chaud. Puis ma mère avait pris, depuis que mon plus jeune garçon a été opéré au cœur, ma mère a commencé à donner du plasma. OK? C'est beau, mais mettons qu'il fait très, très chaud, que tu manges pas beaucoup, que tu es stressé un peu, puis que tu vas donner du plasma, peut-être que tu t'organises pour avoir des petits problèmes.
Oups.
Ma mère a perdu connaissance.
En moto?
En moto.
Tu me niaises.
Dans le dos de mon père.
Tu me niaises.
Mon père est en train de descendre. Pour les gens qui connaissent le secteur, c'est au Saguenay, c'est sur le boulevard Tadoussac. Quand tu pars de Chicoutimi-Nord puis que tu descends vers Canton-Tremblay.
C'est une bonne côte, ça.
C'est une bonne côte. Mon père sent le casque à ma mère s'accoter dans son dos.
Comme si elle lui donnait des coups de front.
Comme si elle lui donnait des coups de front.
Ça répète dangereux, ça.
Mon père, il calme. Lynn, t'es-tu correct? Puis elle répond pas. Là, t'es en moto, là. T'es en pleine heure de trafic.
Voyons.
Puis ma mère est molle comme de la guenille en arrière. Là. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait.
Il y a un banc sur sa moto?
Il y a un banc.
Okay. Oui, mais quand même, il y a des limites à ce qu'un corps peut tenir.
100%
mon père a réussi à stationner la moto sur le côté de la route. Il a réussi, je sais pas comment, à enlever ma mère de sa moto.
Ben voyons.
Ma mère qui est sans connaissance, là. Puis il a réussi à l'amener sur un terrain.
Ben voyons donc.
Ouais. Ça a pris 15 minutes avant que quelqu'un s'arrête. Je referme la parenthèse. L'hospitalité saguenéenne, là.
C'est pas juste au Saguenay.
Non, mais c'est
là,
comme c'est... si actuellement, c'est... avec les cellulaires, on pense pas que les gens sont dans le besoin. Des fois, c'est quatre flashs, puis tu penses qu'ils ont appelé déjà les services. Là.
C'est des gardes forestiers qui s'en allaient en vacances, qui l'ont vu sur le bord du chemin puis qui ont arrêté. Puis c'est eux autres qui ont appelé l'ambulance parce que mon père est un petit peu en état de choc, là. Mais je me disais comment... Puis moi, mon père puis ma mère sont petits, relativement petits. Mais tu prends quelqu'un qui est habillé en moto, en casque de moto, puis tu réussis à prendre cette personne... Tu parques la moto sans qu'elle tombe.
C'est...
Écoute,
absolument.
J'ai demandé, j'ai dit, « Papa, explique-moi, je comprends rien. » Il dit, « Je le sais pas. » Il dit, « Je le sais pas, j'ai réussi à débarquer. » Fait que mon père a sauvé la vie de ma mère pendant...
Mais là, la prochaine fois, il va faire quoi? Il va l'accrocher avec un mousqueton au cas où?
Il va mettre des... comment t'appelles ça? Là, des binders, des straps.
Mais ben là, c'est rendu qu'ils partent à 6, là. Les autres runs de moto de l'été, là, on est allé chercher de la... de la compagnie, mais tabarnouche. Moi, il m'a raconté cette histoire-là, puis ça me rappelle que dans des circonstances comme ça, il y en a qui fichent,
ben oui.
Puis il y en a qui embarquent en mode, je ne sais pas si c'est l'adrénaline, je ne sais pas si c'est le mode survie.
J'allais dire j'aurais paniqué, mais je suis pas certaine. T'sais, probablement que mon cerveau aurait été en mode survie.
On ne sait pas avant que ça arrive. Véro, tu m'as sauvé la vie.
Absolument.
T'as pas paniqué?
Après.
On était trois autour d'une table. J'ai commencé à m'étouffer. J'ai perdu connaissance. Il y en a un qui a figé. Moi, j'étais sans connaissance. Véro a s'élevé, elle m'a poigné par en arrière, puis elle m'a ramené à la vie.
Ça, c'est encore surprenant aussi, parce que si vous les avez déjà vus, en vrai, je veux dire, il y a Véro et il y a Denis qui sont de tailles très différentes.
Oui, mais il y a deux manières de faire Himlitsch. Absolument. Tu peux faire tes poings ou encore tu peux l'accoter sur la table.
C'est l'équivalent.
Il y en a qui auraient rushé à faire le tour.
Oui, pour ceux qui connaissent la lutte, là, c'est l'équivalent de Rey Mysterio qui fait une souplesse arrière au Big Show. En gros, là, comme différence de poids puis de taille.
C'est
là,
beau, ça.
Ouais, elle a réussi. Fait que normalement, elle n'est pas supposée réussir. Mais elle a réussi. Fait que pour ceux qui m'haïssent à la radio,
c'est
de la faute à Véro. Cessez de me détester. Détester la personne qui a sauvé ma vie. Est-ce qu'on avait fait le tour des nouvelles?
Je dirais que ça fait pas mal le tour de l'essentiel de l'actualité qui est très estivale aujourd'hui, tiens.
Tiens, je parlais de lutte il y a quelques secondes à peine. Le 21 août prochain, vendredi soir, 20h, la NSPW vous invite au Stade Canac pour la rage dans la cage. C'est malade, ça. On dirait quasiment une toune des Pumpkins. Mm-hmm. Alex Silva et Pee-wee qui vont enfin régler leur compte dans un combat de cage.